je vais essayer de puiser un peu dans les textes de la tradition. Je vais aussi me tourner vers l'anthropologie et vers la littérature. Donc parfois, je vais être au carrefour de ces disciplines-là. Je suis obligée, en fait, pour mon sujet, d'aller vers ces disciplines-là que je ne maîtrise pas nécessairement. L'anthropologie, par exemple, la littérature, les structures narratives, etc. Mais je pense que c'était nécessaire pour mon propos. Mon propos, justement, est sur la politique du souvenir. Donc, quand j'ai donné ce thème, je me suis dit que c'était un beau titre et que ça allait devoir me motiver pour faire une communication qui soit à la hauteur de ce que ça pouvait évoquer. Donc, c'était une espèce de défi à moi-même. C'est un sujet extrêmement difficile. Et surtout paradoxal, parce qu'on peut se demander évidemment en quoi le souvenir peut fonder une politique, évidemment. Qu'est-ce qu'il y aurait de politique dans le souvenir? Ça, c'est le point que je vais aborder à la fin, parce que j'ai besoin de le préparer, j'ai besoin de le légitimer, de nourrir une réflexion avant d'entamer la question du fondement politique que permet le souvenir dans le judaïsme. Avant ce point politique, je vais aborder la question du souvenir du point de vue de la temporalité en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que le souvenir et qu'est-ce qui m'a amené à m'interroger sur le souvenir, sur cette temporalité à rebours qu'indique le souvenir. Donc ma première partie, elle sera plus, disons, philosophique et littéraire. Et ma deuxième partie, elle va reposer la question, la tension Athènes-Jérusalem, qui est quelque chose sur lequel on revient souvent dans ce séminaire, à partir de la question de la temporalité et du souvenir, comparer éventuellement les temps grecs et les temps juifs, et la mémoire aussi, la question de la mémoire dans la Grèce antique et dans le judaïsme, pour voir s'il y a vraiment un antagonisme. Je pense que l'antagonisme est ailleurs, moi, pour les juifs, mais bon, il y a évidemment des différences qui seront intéressantes à évoquer. Et donc, dans un troisième temps, je parlerai de politique. Voilà, donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais écrit auparavant, je n'ai pas fait de conférence dessus, donc parfois, ce sera un petit peu, malheureusement, inabouti, mais je vais essayer, malgré tout, de donner une unité à mon propos, qui était une espèce d'intuition, et j'espère qu'elle sera bonne. Donc premièrement, le souvenir en général, et je vais me permettre simplement de retracer mon propre cheminement intellectuel qui m'a mené à la question du souvenir pour vous emmener un petit peu avec moi pour voir comment est-ce que ça a émergé. Et quel est l'intérêt et l'enjeu que j'ai trouvé à faire des recherches sur le souvenir. Parce qu'évidemment, il y a un enjeu derrière. C'est un thème qui est très beau, mais il y a un enjeu, ça veut dire qu'il y a une adversité, qu'il y a quelque chose. Le fait de penser le souvenir va nous permettre éventuellement de répondre à certaines critiques. Alors, cette question du souvenir, elle m'est apparue il y a un peu plus de 2 ans. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Quand j'étais au Brésil et que j'étais invitée pour faire une énième conférence sur Ancionas, que j'aime beaucoup malgré tout, qui était mon auteur de... J'ai fait ma thèse sur Ancionas et sur Ernst Bloch. Et donc, je devais aller faire une conférence sur Ancionas. Et je pense que j'avais commencé à ressentir le besoin de changer de sujet. Et j'ai amené avec moi au Brésil, évidemment, j'ai amené Triste Tropique de Lévi-Strauss, qui est son livre un peu romancé, autobiographique, sur ses études, son voyage au Brésil et les études qu'il y a menées. Donc je me suis dit que j'allais confronter ma première expérience du Brésil avec une relecture de Lévi-Strauss, et peut-être que je comprendrais des choses que je n'avais pas compris jusque-là, en étant dans le lieu même de l'émergence de ce livre. Et Je vais commencer par un premier détour. J'ai lu cette phrase citée par Lévi-Strauss, qui est de Chateaubriand et que je vais vous lire, et qui dit la chose suivante. Donc Chateaubriand, c'est des écrits dans ses voyages en Italie. C'est le soir à Florence et il contemple le coucher du soleil. Et il écrit « Je me croyais transporté au bord des grèves ou dans les bruyères de mon armorique au milieu d'une nuit d'automne. Les souvenirs du toit paternel effaçaient pour moi ceux des foyers de César, chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu'il a vu et aimé, et où il rentre sans cesse, alors même qu'il parcourt et semble habiter un monde étranger. » Donc, cette phrase est citée par Lévi-Strauss, et elle nous informe sur quelque chose, sur ce qu'est la qualité du souvenir. Sur ce qu'est la qualité du souvenir, Lévi-Strauss insiste sur la phrase de... chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu'il a vu et aimé, où il rentre sans cesse, alors même qu'il parcourt et semble habiter un monde étranger. C'est une phrase qui s'impose à Lévi-Strauss dans son expérience du Brésil. Et dans l'expérience à partir du souvenir qu'il a du Brésil. Triste Tropique n'a pas été écrit quand il est rentré du Brésil. C'est un livre qui est écrit une quinzaine d'années plus tard. Et Lévi-Strauss le dit dans l'introduction, il se demande pourquoi il n'a pas pu en fait écrire tout de suite ces espèces de mémoires. En fait, il a essayé, mais il n'a pas pu, et c'est quelque chose qui est venu 15 ans après, sous la perspective du souvenir. Et il dit que ce temps de gestation lui a permis de découvrir une vérité intime de ce qu'il avait vécu il y a alors 15 ans, chose qu'il n'aurait pas pu découvrir juste après à son retour. Donc il y a eu cette nécessité de la gestation. C'est très important pour plusieurs points chez Lévi-Strauss. Simplement, la première chose que ça nous indique pour le souvenir, c'est que le souvenir n'est pas simplement un reflet dégradé d'une expérience passée, ce qu'on pourrait a priori dire sur le souvenir. Hein, le souvenir est forcément quelque chose de plutôt vague, une mémoire vague d'une expérience passée. Il ne redistribue pas tout ce que nous avons vécu dans l'expérience passée, même il le modifie. Et donc on aurait tendance à dire que le souvenir dégrade cette expérience passée. Et en réalité, et la citation et le Triste Tropique de Lévi-Strauss montrent que, au contraire, le souvenir augmente cette expérience passée, puisqu'elle y permet de découvrir une réalité plus intime qui n'était pas perçue au moment de l'expérience même. Donc, pour moi, cette réflexion, j'ai trouvé extrêmement intéressante, et puis elle permettait de jeter une lumière sur toute l'œuvre de Lévi-Strauss et sur le geste, sur cette mécanique du retour au passé de Lévi-Strauss, et même sur son lien au primitif, au lointain. Il va dire plus tard dans Triste Tropique que c'est qu'en allant au Brésil, il avait envie de rencontrer une altérité radicale, d'aller le plus loin possible de lui-même, mais que finalement ce lointain absolu le renvoyait à lui-même. Il y avait ce geste-là chez Lévi-Strauss qui m'intéressait, du lointain qui permettait de se retrouver soi-même, qui est une expérience qu'on peut faire au Brésil, qui effectivement, j'ai pas vécu la même époque que Lévi-Strauss, mais il y a effectivement une idée d'une altérité radicale et d'un lointain absolu par rapport à notre vieux monde. Bon. Donc, ça m'a intéressée dans un premier temps, je trouvais que c'était une idée intéressante, et il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article sur Lévi-Strauss, parce que la question qu'on se pose un peu quand on est juif sur Lévi-Strauss, c'est pourquoi est-ce qu'il a étudié toutes les tribus, sauf la sienne, d'une certaine manière. Il aurait pu nous apporter des connaissances peut-être sur le judaïsme, mais en réalité, il a écrit un article sur les juifs, enfin sur un rite juif, sur la circoncision, un article qu'il a appelé Exode sur Exode. Et c'est un seul article, mais très important. Il va étudier la circoncision, mais d'après un rite amérindien, qui est un rite inverse à la circoncision, et donc je ne vous décris pas ce rite-là, mais simplement il prend ce détour d'un rite amérindien pour retrouver, dit-il, le sens archaïque d'un rite juif. Et donc, il y a, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois la tension entre le présent et quelque chose d'archaïque ou quelque chose de lointain. Donc, cette contraction du temps qu'il va y avoir entre les deux. Tout ça, c'est des idées très intéressantes. Si vous voulez, bon, je reviendrai peut-être sur ce texte de Lévi-Strauss plus tard, si vous me le demandez. Mais il y a un enjeu derrière. Il y a un enjeu derrière, et je vais y venir maintenant. L'idée que le souvenir augmente l'expérience passée permet de s'opposer à une idée du temps qui est celui d'un temps décadent, si vous voulez. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire de manière schématique qu'il y aurait trois types de temps de ce point de vue-là. Il y aurait un temps décadent, et comme vous le voyez, au temps décadent ne s'oppose pas un temps progressif linéaire, auquel on pourrait penser spontanément, mais au contraire le temps du souvenir, qui augmente l'expérience passée. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un enjeu ? Philosophiquement, c'est un enjeu très intéressant. Peut-être pour les Juifs, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu pour moi ? Je fais une petite parenthèse sur mes propres recherches. J'avais commencé ma thèse il y a des années maintenant sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur deux penseurs, deux philosophes allemands d'origine juive qui s'appellent Hans Jonas et Ernst Bloch, l'un qui a écrit le principe responsabilité et l'autre le principe espérance. Donc les principes s'opposent, mais eux, ils étaient d'accord sur un point, ils se rejoignaient sur quelque chose, c'était sur la critique de Heidegger. Donc je me suis dit, comment est-ce que l'on peut fonder deux principes différents sur une critique qui est similaire, la critique de Heidegger, et les deux se rejoignaient sur l'idée que la philosophie de Heidegger était une philosophie nihiliste. Ils n'avaient pas les mêmes arguments, mais ils arrivaient à la même conclusion. Pour Ernst Bloch, c'est juste parce que c'était un fasciste, et pour Hans Jonas, c'était une critique beaucoup plus complexe. Hans Jonas a été l'étudiant de Heidegger, mais dès le début, il n'était pas d'accord avec la philosophie, les fondements philosophiques de Heidegger. Et dans sa critique, il y a une critique de l'idée de déréliction chez Heidegger, qu'on trouve dans la temporalité de Heidegger. C'est des questions un peu complexes, mais simplement pour vous indiquer pourquoi est-ce que c'est un enjeu. Chez Heidegger, l'individu existe dans le temps, dans un certain horizon du temps qui est un être pour la mort. Donc l'horizon temporel de l'individu, c'est la mort. C'est la mort, ce qui fait qu'il y a une angoisse constitutive de l'individu. Et je développe pas plus ce point. C'est quelque chose qui a toujours posé problème à Hans Jonas, qui pensait que c'était plutôt une perspective subjective sur la manière de vivre le temps, de ressentir le temps, plutôt qu'une définition proprement conceptuelle et philosophique. L'intérêt de Jonas, c'était pas simplement de dire ça, c'était de montrer qu'entre cette pensée de Heidegger et la pensée gnostique, il y avait des similarités. La pensée gnostique de l'Antiquité tardive, qui pense la chose suivante, qui pense que l'individu est un être jeté et abandonné dans un monde qui est hostile. Je vous dis ça de manière très schématique. Et ce sentiment d'être jeté, d'être abandonné dans un monde hostile, c'est une situation que l'on retrouve dans la philosophie de Heidegger. Donc Hans Jonas se dit, tiens, il y a quelque chose de tout à fait similaire entre les deux, et en réalité, le temps heideggerien est un temps de déréliction, un temps gnostique. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il y a un enjeu de temps déréliction. Est-ce qu'on peut opposer au temps de la déréliction quelque chose d'autre qui n'est pas simplement le temps progressif linéaire, mais un temps réversible? Et avec le souvenir, il me semblait que j'avais quelque chose qui nous permettrait de répondre à cette décadence-là. Pourquoi est-ce que c'est important, encore une fois? Il y a encore une autre importance, il y a vraiment des strates, des enjeux multiples ici. C'est que le temps gnostique, les gnostiques, étaient animés d'un antisémitisme métaphysique, selon Hans Jonas. Pourquoi? Parce que Les gnostiques pensent que ce monde a été créé non pas par un dieu, mais par un démiurge, et qu'il oppresse les individus qui habitent ce monde. Mais selon les gnostiques, qui a créé ce monde-là, c'est le dieu des juifs. Donc il y a une première diabolisation du dieu juif dans le gnosticisme selon Antionas, qui est donc animé par un antisémitisme métaphysique. Et donc je me suis dit qu'éventuellement ce temps de déréliction était effectivement un temps qui était absolument opposé au temps juif. Et pourtant le temps juif n'est pas un temps progressif linéaire non plus. Donc quel est ce temps juif? Est-ce que le souvenir, le fait de travailler sur la question du souvenir peut nous orienter vers la temporalité juive? Donc voilà pour les enjeux. Maintenant... c'est pas quelque chose de tout à fait évident, l'idée du souvenir, l'idée du passé, de l'expérience passée dans le judaïsme, même si pour tout le monde peut-être que c'est très clair. Mais juste après ce voyage au Brésil, on m'a demandé de travailler, de donner des cours de philosophie juive. J'étais bien embêtée parce que je savais pas ce que c'était que la philosophie juive. Et je me suis dit, va falloir que je trouve une définition de la philosophie juive et comment est-ce que est-ce que la philosophie juive, ce serait quelque chose qui vient du judaïsme, dont on pourrait faire une philosophie sur le modèle grec, et alors là, ça me paraissait très conflictuel. Est-ce que la philosophie juive, ce sont des philosophes juifs qui font de la philosophie? Évidemment, c'est insuffisant. Donc j'étais embêtée avec cette question de philosophie juive, mais bon, je donne quand même des cours, donc il faut que je donne une matière à ces cours de philosophie juive, et je finis par enseigner des philosophes d'origine juive, qui ont... fait usage de concepts, enfin d'idées qui viennent de la tradition juive. Simplement, ils les ont modifiés, voilà, éventuellement déformés, je ne sais pas. Mais il y avait toute cette constellation d'auteurs du 19e, 20e siècle qui travaillaient beaucoup la notion de messianisme et qui sécularisaient le messianisme. Et donc au départ, je me disais que la temporalité juive, à partir de ces auteurs-là dont je vais parler un petit peu, la temporalité juive, elle était caractérisée par la question de l'avenir, puisque c'était le messianisme qui dominait chez ces philosophes juifs-là, que je cite. Puisque, donc il y avait Ernst Bloch, il y avait Martin Buber, Gershom Scholem, un historien, mais enfin la question du messianisme... l'animait, donc Gustav Landauer qui était un ami de Buber, et Walter Benjamin, et ça j'y reviendrai après parce qu'il se distingue. Donc il y a un usage de la question du messianisme chez ces philosophes-là, qui est sécularisé, c'est-à-dire qui est sécularisé par exemple chez Ernst Bloch, il y a un messianisme sans Dieu. Messianisme sans Dieu, qui donc pour nous, pour ici en tout cas, paraît quelque chose de tout à fait contradictoire, mais c'est dans la veine marxiste, hein, c'est-à-dire de la restauration d'un royaume de Dieu sur Terre, mais sans Dieu, qui serait à l'initiative des hommes seuls. Donc ce seraient les hommes seuls qui parachèvent le monde. Donc chez Ernst Bloch, il y a ça. Chez Martin Buber, donc, comme vous le savez, il y a un usage du messianisme qui se transforme en utopie. C'est ce que Gershom Scholem, d'ailleurs, lui reprochait, c'est-à-dire d'avoir édulcoré le messianisme juif, qui était quand même de temps en temps apocalyptique, d'avoir édulcoré l'eschatologie juive et d'en avoir fait un messianisme utopique et donc un petit peu déformé selon Scholem. Même Antionas n'a pas fait. Il critique le messianisme Antionas, mais il utilise la catégorie du futur. Il fait une éthique du futur. Il essaye de penser comment est-ce que nous pouvons être responsables pour l'avenir et comment est-ce que l'on peut inverser la causalité du temps. D'habitude, c'est le passé qui influence sur le présent. Et pour Antionas, il faut savoir comment est-ce que l'avenir peut être un levier d'action dans le présent. D'accord ? Donc, il y a, en tout cas, même si ce n'est pas le messianisme, je disais parfois que c'était une forme de prophétisme sécularisé chez Antionas, il y a un usage de la catégorie de l'avenir hein, qui est travaillé et puis qui prend aussi la forme très importante de l'espérance chez Ernst Bloch et puis chez Martin Buber. Bon. Donc, au départ, je me disais que c'était plutôt le futur qui caractériserait la temporalité juive. Et puis finalement, je travaille sur Walter Benjamin, qui, à mon avis, détient, lui, quelque chose de peut-être de plus profond vis-à-vis du messianisme juif que les autres auteurs que j'ai cités, que j'adore par ailleurs, mais chez Benjamin, il y a quelque chose de plus subtil. Donc je pense que j'en ai déjà parlé ici, à chaque fois ça revient dans mes questions, parce que c'est quelque chose qui me marque. Le messianisme de Walter Benjamin, c'est un messianisme qui est à rebours. C'est-à-dire qui est impliqué par le souvenir du passé. Le meilleur moyen pour qu'une ère messianique advienne, c'est de ne rien projeter sur cet avenir, de ne pas calculer cet avenir, de ne pas le formuler. Et c'est en ne s'occupant pas de l'avenir que peut-être on se dispose à ce que la transcendance advienne. Donc, il tire ça du judaïsme lui-même, et c'est quelque chose qui est explicite dans ses thèses sur le concept d'histoire. Dans ses thèses sur le concept d'histoire, la dernière thèse, qui est fragmentaire aussi, dit que ce serait jeter un sort à l'avenir que de le projeter, que de le calculer, et que c'est une idée qu'il tient là du judaïsme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si on ne se tourne pas, comme les philosophes que j'ai cités là, si on n'est plus obligé de donner un contenu à l'avenir, ce qui était leur but? Benjamin nous dit qu'il faut commémorer le passé et que la commémoration est une idée juive. Donc c'est la commémoration, l'exercice de ce type-là de souvenir qui nous disposera au messianisme. La commémoration, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de justice, hein, c'est pour ça qu'il y a un lien avec le messianisme, puisque c'est la commémoration, c'est pas la commémoration de n'importe quoi, ça, il y a un objet à la commémoration, c'est la commémoration des victimes et des injustices, des souffrances passées. Et cette commémoration, elle fait en sorte que les victimes, qui ont été une victime une première fois, ne soient pas victimes une seconde fois à cause de l'oubli. Donc, Benjamin fait ce messianisme à rebours et il s'oriente petit à petit vers l'idée de la mémoire, de la commémoration et du souvenir. Donc ça, c'est très intéressant. Malheureusement, ce sont des thèses qui sont fragmentaires. Donc nous, on est obligés de les développer sur des textes que Benjamin n'a pas écrits. Mais il a écrit d'autres textes qui vont me permettre de mieux définir ce souvenir, cette mémoire et la perception intellectuelle qu'elle permet. Je vais passer à ce point. J'ai dû oublier 2-3 choses, mais c'est pas grave. Donc, en fait, pour définir plus avant ce souvenir, j'ai trouvé des textes de Benjamin sur Proust, des textes qui sont extrêmement intéressants et où il parle à nouveau de ce rapport religieux au souvenir, à la commémoration, etc. Juste une parenthèse ici, ce souvenir, il a une nouvelle qualité qu'il n'avait pas là dans ce que j'ai dit au tout début sur Lévi-Strauss. Chez Lévi-Strauss, il y a l'idée que ce souvenir, c'est le souvenir de quelque chose qui est chéri et qui est aimé et qui apporte quelque chose de familier dans un monde qui peut être perçu de temps en temps comme un monde étranger. Bon. Dans le souvenir, il y a quelque chose de l'ordre de la résistance chez Benjamin, quelque chose du souvenir de quelque chose de douloureux. Hein. Donc, il y a une résistance, mais le souvenir est une résistance même générale, quasiment, je dirais, à l'actualité. Et le positionnement dans le souvenir, dans la commémoration, fait qu'il y a une inactualité par rapport au présent. Ce qui peut expliquer, je vais développer ça, je suis désolée si c'est un petit peu abstrait, ce qui peut expliquer des attitudes parfois qui ont l'air antimodernes chez Benjamin, chez d'autres penseurs juifs d'ailleurs. Et même Je pensais même à Mendelssohn, en fait, hein, qui n'est pas du tout anti-moderne. Il y a une espèce de résistance à la vitesse de la modernité. Mendelssohn, qui écrit sur les Lumières avant Emmanuel Kant, met en garde devant la vitesse de la modernité, de l'imposition de la rationalité moderne. Donc il y a toujours, j'ai l'impression que, pas toujours peut-être, mais régulièrement, comme ça chez les penseurs juifs, une espèce de position dans un peu inactuelle qui met en garde contre l'accélération du temps. Ernst Bloch parle lui-même de saturation du temps dans la modernité, qui fait qu'on est systématiquement dépassé par la vitesse de la modernité. Donc, chez Benjamin, qui était proche sur différentes modalités de la pensée de Ernst Bloch, il y a également cette forme d'inactualité. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve chez les auteurs qu'il étudie, et notamment chez Proust. Bon, chez Proust, c'est une littérature du souvenir, comme vous le savez. C'est une littérature qui va déplier une expérience passée à partir d'une impression présente qui nous renvoie à quelque chose qui avait été oublié et qui est retrouvé avec bonheur, mais par hasard, hein, comme le dit Proust. Et donc on est un peu soumis au hasard de ces impressions pour retourner dans le passé. Ça sera la différence avec Benjamin et puis avec la tradition juive. Je pense que le souvenir n'est pas un hasard, c'est un exercice, c'est un devoir. C'est une injonction, il y a une injonction au souvenir, il me semble, dans le judaïsme et chez Benjamin en tout cas aussi. Pourquoi est-ce que je prends Proust? Pas parce que simplement c'est La recherche du temps perdu est un roman absolument magnifique, exceptionnel et unique. On peut se poser la question de savoir si la temporalité de Proust est juive. On aimerait bien, enfin moi j'aimerais bien que la temporalité de Proust soit juive, parce que c'est une temporalité que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est pas une question qui sort de nulle part, et je ne suis pas la seule à me poser cette question, puisque Deleuze lui-même se pose la question. Et il donne une réponse étrange, en fait, à cette question. Dans son Proust, Deleuze écrit lui-même un livre sur Proust. Il y a un chapitre qui s'appelle « Antilogos ». Antilogos, donc contre la raison, contre la logique, contre ce type de discours. Et il écrit « L'opposition d'Athènes et de Jérusalem, Proust la vit à sa manière ». Et il dit plus loin qu'il élimine le logos pour retrouver le pathos. Vous avez cette dichotomie très, très agréable, le juif du pathos, le grec du logos, qu'on aimerait bien pouvoir critiquer avec certains moyens, mais c'est très drôle de se dire que si la temporalité de Proust est juive, c'est parce qu'elle appartient au pathos et pas au logos. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça veut dire que, selon Deleuze, s'il y a une temporalité juive, qui est plutôt de Jérusalem plutôt que d'Athènes, c'est une temporalité qui vient de la sensibilité. Et sensibilité primitive ou prélogique, si je devais m'aventurer dans les terrains anthropologiques qui ne sont plus valables aujourd'hui. Mais enfin, voilà, il y a cette idée-là qui renoue un petit peu avec cette fameuse dichotomie qui dit que le judaïsme, c'est le matérialisme, par exemple, et le christianisme, ce serait le spirituel. Donc il y a toujours cette dichotomie qui ressort, qui sont extrêmement schématiques et terribles, et qui demandent évidemment plus de nuances. Cela dit, Deleuze dit quelque chose d'intéressant après. Il dit, bon, c'est pas le logos que recherche Proust, c'est donc la sensibilité. Malgré tout, ça va lui permettre d'accéder à des réminiscences comme chez Platon. Ça va lui trouver des réminiscences, donc il va pouvoir développer quelque chose à partir de cette sensibilité, de ses impressions premières. Seulement Platon, dans ses réminiscences, va chercher des essences, d'ailleurs chercher des vérités éternelles, tandis que Proust va chercher un positionnement et un point de vue supérieur sur les choses. Donc le souvenir chez Proust, c'est une mise en perspective temporelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et quand je lisais ça, je me dis, c'est peut-être pour ça que les Juifs plaisaient beaucoup à Nietzsche, puisque c'est lui qui a développé le perspectivisme, l'idée d'avoir plutôt un point de vue, de rechercher un point de vue et un positionnement sur la réalité et sur le monde, plutôt que d'accéder à des vérités éternelles. Bon.
Excusez-moi, vous pouvez parler un petit peu plus.
Oui, bien sûr. Pardon. Donc. Voilà. Alors, donc il y a ce développement sur Proust, et Benjamin lui-même, qu'est-ce qu'il dit sur Proust à partir plutôt de Proust? Il développe l'idée que le souvenir est un exercice de la perception. Le souvenir est un exercice de la perception et une perception de type cultuel. C'est pas une perception culturelle, c'est une perception de type cultuel. C'est-à-dire une perception qui va renouer avec une aura. Et qu'est-ce que l'aura chez Benjamin? Donc je cite la définition de Walter Benjamin. L'aura, c'est l'apparition unique du lointain. L'apparition unique du lointain. Quelque chose qui est lointain, qui est éloigné dans le temps et qui vous apparaît à nouveau chargé d'une aura. Et donc, pour Benjamin, c'est une perception qui est culturelle, qui a un rapport à la religion. Donc c'est tout à fait lié avec sa conception du messianisme. Cette perception-là, elle est culturelle aussi parce qu'elle permet une continuité, de recomposer une continuité entre le passé et le présent. Il y a des discontinuités entre le passé et le présent. Mais le messianisme de Benjamin fait en sorte que le présent soit toujours intégré à une tradition. C'est ce qui fait que le présent devient une expérience, devient un vécu, accède à une qualité plus profonde. Sans ça, si l'expérience du quotidien n'est pas intégrée à une tradition, n'est pas intégrée à un passé, ce que vous vivez, c'est simplement une information qui est isolée et qui n'a pas de sens. Et pour vous donner une illustration de ce propos, Benjamin parle du journalisme. Le journalisme, la manière dont le journalisme est narré et récité, il est dit pour transmettre une information, mais pas pour que cette information soit intégrée dans une tradition. Donc, d'où l'idée d'une saturation des informations journalières qui ne s'intègrent pas et qui ne donnent pas de sens pour interpréter la réalité. Bon. Je cite encore Benjamin. Ce qui rend les jours de fête grands et importants, c'est la rencontre avec une vie antérieure. Donc vous voyez là vraiment que l'idée du souvenir dans cette conception du messianisme à rebours de Benjamin est vraiment quelque chose qui est lié au religieux, qui est lié à l'aura, au cultuel. C'est l'idée d'une rencontre avec une vie antérieure qui est recherchée. Dans ce type de perception. Donc c'est vraiment une contraction du temps qui gagne en qualité à mesure que ce lointain s'éloigne même, parce qu'il demande encore plus d'efforts à la mémoire, plus de travail, une mémoire qui doit recomposer sans cesse et retrouver des impressions sensibles enfouies. Bon. Autre chose, qu'est-ce que ça nous indique sur le souvenir? Ça nous indique que le temps n'est pas reçu de manière passive. Ça veut dire qu'il y a une activité vis-à-vis du temps. Et ça s'oppose encore là à une idée du temps de dérédiction, un temps décadent qui est subi et qui nous engloutit et qui nous penche vers le sol, comme dirait Baudelaire. Au contraire, il y a une action sur le temps par ce travail du souvenir, par ce travail de la mémoire. Bon. Donc ça, c'est intéressant, et ce sont des éléments juifs de la philosophie de Walter Benjamin. Ce n'est pas une philosophie juive, ce sont des éléments juifs de sa philosophie. Mais ça m'a orienté vers l'idée d'une narration du souvenir. Est-ce que si Proust a une forme de narration de la temporalité qui est juive, est-ce que cette narration de la temporalité a une origine dans les textes juifs, tout simplement? Est-ce que cette manière de réciter les événements, les phénomènes, est une manière juive? Donc je me posais la question, et à ce moment-là, Danny Trom m'a indiqué un livre qui m'a beaucoup aidée, qui est le livre de Eric Auerbach sur qui est le chapitre sur la cicatrice d'Ulysse. Donc je vais merci beaucoup parce qu'en plus donc comme son titre l'indique, hein, la cicatrice d'Ulysse, il va y avoir un rapport avec les Grecs. En plus, ça me permet de commencer à rentrer dans l'opposition Athènes-Jérusalem, la tension Athènes-Jérusalem. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Je vais vous dire donc ce que Auerbach fait dans ce chapitre, parce qu'on oppose beaucoup Athènes et Jérusalem de manière très générale, comme s'il n'y avait pas des Grecs absolument différents entre eux, des temps grecs très différents, des pensées, des courants qui s'opposaient entre eux, comme si l'antiquité grecque formait un tout général unifié. Et Eric Auerbach, je prononce bien le nom de famille, choisit un type grec qui est un type narratif, qui est l'Odyssée, qu'il va comparer avec le style biblique. Donc il choisit quelque chose de très précis qui permet d'entrer en profondeur dans cette tension Athènes-Jérusalem. Et c'est très intéressant parce que ça va me permettre d'éventuellement dire que dans la narration juive, il y a une disposition au souvenir, dans la narration elle-même, qu'il y a une identité narrative juive qui dispose au souvenir. Et en fait, c'est dit dans Auerbach, très, très simplement, il compare donc la manière de réciter de Homère, d'Homère, dans l'Odyssée, et il dit la chose suivante. Il dit: ce style ne connaît pas d'arrière-plan. Ce qu'Homère raconte constitue toujours le présent. C'est-à-dire qu'il y a une plénitude du récit qui procède d'une volonté de ne rien laisser dans l'ombre, d'expliciter et d'extérioriser même les intériorités des personnages, tout ce qui se passe dans leur esprit, les interrogations qui les traversent, etc. Donc le style narratif de l'Odyssée, c'est un style exhaustif. De la plénitude qui décrit absolument tout et qui se passe systématiquement au présent. Ce style-là et le style biblique, ce sont, selon Auerbach, les deux styles qui ont formé notre représentation de la réalité. C'est la manière dont on décrit ensuite, c'est les deux représentations qui ont irrigué tout notre rapport à la réalité dans l'histoire littéraire. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui m'intéresse, parce qu'ici, il n'y a pas d'effet de perspective, puisqu'il n'y a pas d'arrière-plan. Et ensuite, il passe, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, je suis déjà trop longue sur ces points-là, il passe ensuite au style biblique. Et il prend le passage de la ligature d'Isaac. Et c'est vrai que si vous faites l'expérience vous-même de lire un passage de l'Odyssée et juste après de lire un passage de la Bible, vous voyez évidemment le fossé qu'il y a entre les deux types de narration. Il y a un fossé tel qu'on a l'impression presque que la Bible est du roman moderne à côté de l'Odyssée, tellement il y a d'absence, de silence, de choses qui sont suggérées, voilà, des choses qui ne sont pas explicitement dites. Donc il y a vraiment des occultations, des procédés elliptiques, etc. Donc il prend l'exemple de la ligature d'Isaac, il dit que bon, il n'y a pas de localisation précise, Dieu apparaît et interpelle Isaac, on ne sait pas exactement comment, bon, pourquoi évidemment c'est nous qui l'explicitons, mais ce n'est pas explicité par le texte. Il n'y a pas de description du chemin vers l'autel, on donne la durée du cheminement vers l'autel, du sacrifice, mais on ne décrit pas le cheminement, chose qui aurait été décrite de manière exhaustive par Homère. Donc Auerbach dit qu'il y a une progression vers l'indéterminé et que ces silences et indéterminations supposent des arrière-plans. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a deux styles formels, l'un exhaustif et l'autre avec des omissions et des occultations qui vont être les espaces de liberté pour l'interprétation, pour le commentaire, etc. Ça m'intéresse parce que quand je parlais avec le Rav Grandstein de mon sujet qui me faisait un petit peu peur, bon, le Rav m'a rassurée parce qu'il m'a dit: mais le judaïsme, c'est le souvenir. Donc je me suis dit: bon, très bien, je ne peux pas complètement me perdre si j'évoque le souvenir pour le judaïsme, mais Quand je vous avais parlé de cette phrase du Tehilim 137 qui dit « Si j'oublie Jérusalem, que ma droite s'assèche », vous m'avez dit que on appliquait à partir de ce psaume, par exemple, le fait que quand on peignait sa maison, on occultait, on omettait une partie, un espace de 60 sur 60. Bon. Donc, bon, c'est simplement que formellement, même physiquement, l'omission, l'occultation est est ce qui permet évidemment le souvenir. Hein. Donc, il y a ce contraste-là entre les deux. Et je me disais que même textuellement, dans l'identité du texte lui-même, il y a une disposition au souvenir. C'est presque une fonction cognitive qui se développe à partir de la lecture des textes juifs. Voilà pour cette dimension d'identité narrative qui me permet d'arriver à l'opposition Athènes-Jérusalem que je voulais décrire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on n'est pas dans l'opposition que l'on fait peut-être en général, qui est l'opposition monothéisme-polythéisme. Là, on est dans une opposition de récit, de la matière du texte lui-même. Mais l'opposition majoritaire, enfin, récurrente entre Athènes et Jérusalem, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure à l'occasion de la citation de Deleuze, c'est l'idée d'un logos, d'une rationalité à laquelle le judaïsme n'aurait pas eu accès. Bon. Ça c'est quelque chose de problématique, et en fait je vais essayer de passer vite là-dessus pour arriver à mon point plus politique après. Je lisais en même temps deux anthropologies, l'anthropologie du judaïsme de Max Weber et l'anthropologie de la philosophie de Vernon. Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, parce que moi souvent, en fait, plutôt je voyais une synergie entre la philosophie et les juifs, je me disais quand même, il y en a qui font ça très très bien, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de rationalité qui se serait rencontrée au contraire, et qui fait que aussi, c'est pour ça que c'est difficile parfois de s'en défaire, et que l'opposition est plus affectée encore entre les deux. Je me suis dit que peut-être en analysant les contextes d'émergence du judaïsme et de la philosophie, on va pouvoir voir des choses qui se rencontrent. Et effectivement, donc enfin, c'est ce que j'ai trouvé, ça demande un approfondissement. Quand Jean-Pierre Vernon fait de l'anthropologie de la philosophie, il montre comment la philosophie est née. Ce n'est pas l'étude des systèmes en eux-mêmes, mais l'émergence de la philosophie. Et il dit la chose suivante, il dit que la philosophie, elle effectue une mutation mentale qui nous fait passer du mythos, de la mythologie, au logos. Donc, c'est cette mutation, la naissance de la philosophie, c'est l'histoire de cette mutation mentale qui est très progressive. Qui est progressive à ce point que, quand même, on retrouve de la mythologie dans la philosophie. Un usage, en tout cas, de la mythologie. Donc, il y a un processus de rationalisation qui va aboutir à la conceptualisation, qui va aboutir à la théorisation, qui va aboutir à la distinction entre le vrai et le faux, etc. Bon, je ne développe pas plus, je pourrais préciser, mais enfin, c'est juste pour vous mettre ça en parallèle avec ce que dit Max Weber. Parce que Vernon dit que la rationalisation est progressive dans l'émergence de la philosophie. Et Max Weber, dans son anthropologie du judaïsme, c'est difficile de trouver une anthropologie du judaïsme, je demande aux anthropologues, mais en fait, apparemment, ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers la critique biblique pour trouver de l'anthropologie du judaïsme. Bon, j'ai pris Max Weber parce que ce qu'il disait m'intéressait et je pouvais le mettre en parallèle, le faire coïncider avec ce que disait Vernon. Max Weber dit qu'il y a un processus de rationalisation dans le judaïsme. Et je trouvais que c'était très intéressant parce qu'il décrit au chapitre 19 quel est ce processus de rationalisation. Ce n'est pas exactement un passage du mythos au logos comme dans la philosophie, évidemment, parce que ça n'a pas donné la même chose, mais c'est une distanciation des mythologies environnantes, des cultes orgiaques, dit-il, et surtout de la magie. Il y a une progressive élimination de la magie qui est un processus de rationalisation chez Max Weber. Ça ne veut pas dire que la magie est complètement éliminée, mais il y a une volonté d'élimination de la magie. Donc il y a une rationalisation, et Max Weber appelle ça un désenchantement du monde, d'ailleurs. Il dit d'ailleurs qu'une des causes de l'antisémitisme vient de là, vient du fait de dire que les Juifs ont rationalisé, ont désenchanté, ont éliminé la magie du monde, et que la plupart des gens préféraient un monde magique qu'un monde rationalisé. Et donc cette rationalisation, simplement, elle s'est orientée vers le juridique, ou vers l'éthique. Tandis que la rationalisation grecque, elle s'est orientée vers la théorie générale de la connaissance, vers l'épistémologie, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y avait des processus de rationalisation qui étaient à l'origine dans les deux cas, ce qui fait que le judaïsme n'échappe pas au logos, évidemment, il n'a pas le terme grec, où il n'est pas acculé simplement au sensible ou au pathos, comme pourrait le dire Deleuze, mais il y a un processus de rationalisation qui fait que ce qu'il propose peut entrer en discussion, peut entrer en concurrence avec ce que la philosophie grecque propose. Parce qu'en fait, pour entrer en concurrence ou pour discuter de quelque chose, il faut qu'il y ait un terrain commun, et ce terrain universel de la raison, les deux l'ont en partage. Voilà pour ce premier point. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça maintenant? Parce que j'ai souvent dit ici que le temps grec et le temps juif s'opposaient, et que c'était là-dessus qu'il y avait une opposition. Et en réalité, c'est faux. Il faut que je dépasse un peu ce que j'avais proposé au départ. Je me reposais sur Antionas pour dire ça, donc je pensais que ça avait un fondement très 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 fort, puisque c'est mon autorité de référence. Puisque Antionas dit dans un texte qui s'appelle « Éléments juifs de la philosophie », justement, il dit la chose suivante, il dit que le temps juif était ce qui pouvait rentrer en discussion avec la philosophie grecque, et que c'est l'élément qui a fait que le christianisme a pu discuter avec la philosophie grecque. Parce que ces autres éléments, les autres éléments du christianisme, n'étaient pas suffisamment rationnels pour pouvoir discuter avec la philosophie grecque. Comme l'incarnation de Dieu, comme la Trinité, etc. Des choses qui n'étaient pas suffisamment rationnelles pour entrer sur le terrain de la philosophie. En revanche, ce que le christianisme a repris du judaïsme, c'est le rapport à la temporalité, l'histoire, l'idée d'un progrès, mais surtout l'idée d'un monde qui est créé. Et donc ces deux idées, selon Jonas, elles rentrent en discussion, c'est-à-dire l'idée d'un monde créé qui a un début et qui a une fin et qui anime une forme de temporalité. D'accord ? Et le monde incréé de l'autre, qui est le monde grec, qui serait le monde de l'éternité ou du cycle éternel des choses, comme vous le savez. Donc pour moi c'était assez facile parce que j'avais une espèce de schéma de deux temporalités différentes, une temporalité avec ce monde créé et avec éventuellement une fin qui pouvait expliquer effectivement la singularité du messianisme, et puis la temporalité grecque d'un monde incréé et éternel. Et je me suis dit bon, l'opposition elle est très claire et ça va nous permettre d'avoir un point de départ sur les différences entre Athènes et Jérusalem. Bon, en fait, quand on approfondit le thème de la temporalité grecque, on se rend compte qu'il y a énormément de temporalité chez les Grecs, qu'il y a aussi une idée de la fin. Il y a le temps tragique, qui est un temps linéaire. Il n'y a pas que le temps cyclique. Il y a aussi un temps de la fin de la fin des générations, qu'on retrouve d'ailleurs dans la République de Platon. Il y a un chronos, il y a une temporalité, une continuité, et il y a même l'idée d'un monde qui est créé du chaos, hein, évidemment qui sort du chaos d'une certaine manière. Il y a l'idée d'un monde qui commence chez Épicure avec la rencontre hasardeuse de deux atomes. Bon, voilà, on peut démultiplier les temporalités grecques, et on peut se dire, bon, ben, dans ce cas-là, il n'y a rien de singulier dans la temporalité juive. Comment est-ce qu'on va à nouveau pouvoir les distinguer? Et même du point de vue de la mémoire, je me dis, bon, il y a quand même une culture de la mémoire dans le judaïsme qui est très particulière. Donc, mais dans le monde grec aussi. Et en fait, chez Platon, la réminiscence est absolument essentielle, puisque, comme je vous l'ai dit, elle fait une théorie générale de la connaissance. Et en plus, il y a une structure de la réminiscence qui peut même être commune entre le judaïsme et la réminiscence platonicienne, puisque moi, ça me faisait penser à ce passage du Talmud, Nida 30, je crois, qui parle de la réminiscence. Enfin, peut-être que vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire de la connaissance de la Torah qui est donnée à l'enfant, à l'embryon, pendant la grossesse, et qui est ensuite complètement oubliée à la naissance, et qui doit être ensuite retrouvée par l'étude. Donc, c'est une structure de réminiscence qu'on trouve chez Platon aussi. Simplement, évidemment, si la structure est la même, le contenu n'est pas le même. Encore une fois, le contenu d'un côté, c'est la Torah, donc cette identité narrative dont je parlais tout à l'heure, et le contenu est de l'ordre épistémologique de l'autre côté. Mais enfin, je me disais, il y a des similarités, donc c'est pas encore là assez singulier, c'est pas encore ce qui singularise le judaïsme. Et c'est ce qui va me mener petit à petit à l'idée de la politique du souvenir, finalement. Donc je vous explique mon cheminement, j'espère que ce sera clair. Je sais que ça fait beaucoup de choses jusqu'ici. Mais je me disais, voilà, les Grecs ont eu plusieurs temps dans leur approche de la mémoire. Et ils ont sacralisé la mémoire au départ parce que c'était les poètes qui étaient chargés de cette mémoire. Et les poètes étaient chargés de retransmettre un récit de la création du monde, un récit dramaturgique de la création du monde. Les poètes étaient des gens qui étaient inspirés par la déesse de la mémoire. Donc il y a cette idée que la mémoire est absolument sacrée. Les poètes faisaient des récits généalogiques des dieux et des générations. Vous savez qu'il y a cinq générations. Il y a cinq âges chez les Grecs, l'âge d'or, de fer, etc. Bon. C'est un récit généalogique. La mémoire, elle crée un récit généalogique qui permet d'intégrer les individus présents à une expérience passée, à une tradition passée, donc ce dont je parlais chez Walter Benjamin. La démythologisation que fait la philosophie rompt avec ce récit généalogique. On rompt avec la poésie, on rompt avec le récit dramaturgique, et la mémoire, au lieu d'être une déesse, devient un principe de la connaissance. Et donc, il y a une dépersonnalisation, si vous voulez, du rattachement, de la fonction sociale qu'avait la mémoire, de rattacher à une communauté présente, à son expérience passée. Et quand c'est les Grecs ont rompu avec cette généalogie, avec ce récit généalogique, et c'est pour ça que la philosophie est devenue hors sol, n'appartient pas à un peuple. C'est pas le peuple grec qui est récipiendaire de la philosophie. Et en revanche, je pense que les Juifs n'ont jamais rompu avec ce récit généalogique. Et non seulement ce récit généalogique, mais le souvenir de cette généalogie, le fait de s'intégrer systématiquement dans la transmission de la mémoire, un récit des noms, un récit généalogique qui est en même temps le nom de Exode en hébreu, qui est Shemot, qui rappelle systématiquement les noms, qui inscrit la communauté dans une forme généalogique et qui est en même temps le passage de la Torah où il y a une injonction au souvenir. Et en fait, donc mon propos pour dire qu'il y a une politique du souvenir, c'est en fait une pré-politique du souvenir. C'est-à-dire que le souvenir qui est présent de manière textuelle, de manière narrative dans le texte de la Torah, et qui est donc un exercice aussi de la perception, n'est pas un exercice individuel, c'est un exercice de la communauté qui se rappelle son propre fondement. Et c'est pour ça que c'est pré-politique et que c'est un fondement absolument essentiel dans la philosophie politique en tant que. Donc, je passe à mon dernier point, qui est vraiment l'idée de politique du souvenir. Donc, je suis vraiment désolée pour les choses qui sont inabouties jusqu'ici dans les textes, parce qu'il y a, des. Voilà, j'ai pas eu le temps pour, d'aller plus loin pour le moment. Pourquoi est-ce que le souvenir est véritablement donc un fondement politique? Bon. Vous savez que dans l'histoire de la philosophie politique, on peut dire qu'il y a deux temps, bon, trois temps, mais le troisième, je ne vais pas en parler parce qu'il est postmoderne. Le premier temps, c'est de dire que l'homme est un animal politique et qu'il y a une continuité entre la vie naturelle et la vie sociale et la vie politique. Donc ça, c'est l'idée aristotélicienne, c'est l'idée de l'Antiquité grecque. Il y a une continuité entre la vie agrégative de l'homme et sa vie en communauté sociale et puis politique. Donc il n'y a pas de questionnement sur cette légitimité-là du passage au politique. Ensuite, il y a une rupture à partir des théories contractualistes qui disent en fait ce cheminement n'est pas naturel. Il y a un passage de la nature à la culture. Il y a un passage de l'état de nature à l'état politique. Et ce passage, il se fait de différentes manières en fonction des philosophes, mais il aboutit à un contrat social, c'est-à-dire un consentement. Un consentement qui va créer un corps politique. Donc, il y a deux manières de voir. La troisième manière de voir, ce sera une critique de ce contractualisme. Mais dans les penseurs du contrat social, et là je vais m'appuyer donc sur un philosophe en particulier, on pense régulièrement le pacte social, le contrat social, à partir du modèle de l'alliance. Parce qu'éventuellement, on recherche une alliance qui soit suffisamment pérenne, et en tout cas aussi pérenne que l'alliance juive a créée. Et ce qui m'a intéressée, c'est que je lisais, il y a quelque temps, je relisais le Léviathan de Hobbes, enfin une partie, parce qu'on ne le relit pas entièrement de temps en temps, sinon, bon. Donc, et dans le chapitre 30 du Léviathan de Hobbes, il y a un passage que je vais vous lire entièrement qui est extrêmement intéressant et qui fait appel à la question du souvenir. En fait, pour vous expliquer avant de vous lire ce passage-là, quand un contrat social est fait, c'est un élément fictif de la philosophie politique. On ne sait pas quand est-ce que ce contrat social a été établi. Mais on suppose qu'il y a eu un contrat social qui a démarré les sociétés, d'accord ? Le problème, c'est l'oubli des raisons qui ont présidé à ce contrat social. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est entré dans un contrat social pour que ce contrat social se maintienne, pour qu'on continue à faire un corps politique. D'accord ? Et donc, si on oublie les raisons qui ont présidé à ce contrat social, alors, éventuellement, le corps politique peut se dissoudre. Et donc, il est très important de réfléchir aux raisons qui ont présidé au contrat social. Pourquoi est-ce qu'on est rentré dans un contrat social ? Pour Rousseau ou pour Hobbes, peu importe, c'est parce que pour une recherche de la sécurité, pour une garantie de la liberté et pour éviter la guerre de tous contre tous, notamment. Pour éviter de vivre une vie qui ressemble plutôt à une forme de survie. Donc, c'est l'accès à une forme de liberté et d'autonomie que le contrat social promeut. Donc, il faut pouvoir se souvenir que le contrat social est fait et la condition de cette liberté du peuple. Et donc, quand moi, je vous parle de ça, on voit très bien que dans le judaïsme, il y a ce modèle-là. Mais Hobbes en parle directement dans ce chapitre 30 que je vais vous lire. Donc, c'est le quatrième point. Et il dit, quatrièmement, vu que les gens du peuple ne peuvent apprendre cela, c'est-à-dire l'origine du contrat social, ou s'ils l'apprennent, ne peuvent s'en souvenir à tel point qu'une génération passée Ils oublient en qui le pouvoir souverain est placé si on n'institue pas à côté du labeur ordinaire certains moments déterminés où ils puissent se rendre auprès de ceux qui sont chargés de les instruire. Il est nécessaire que de tels moments soient fixés pendant lesquels ils pourront s'assembler et après avoir adressé des prières et des louanges à Dieu, le souverain des souverains, écouter ses devoirs qui sont leurs et qu'on leur apprendra. Les lois, celles qui les concernent généralement tous, qui seront lues et expliquées. On leur rappellera par quelle autorité ces lois sont lois. Dans ce but, c'est toujours Hobbes, les Juifs avaient chaque septième jour un Shabbat pendant lequel la loi était lue et expliquée, et pendant cette fête sacrée, on leur rappelait que leur roi était Dieu, qui avait créé le monde en six jours, s'était reposé le septième, et en se reposant ce jour-là de leur labeur, il leur était rappelé que Dieu était leur roi, qui les avait libérés de leurs travaux serviles et pénibles d'Égypte, et leur donner un temps, après s'être réjouis en lui, pour prendre aussi de la joie en eux-mêmes par des divertissements légitimes. De telle sorte que la première table des commandements est consacrée à noter l'essentiel du pouvoir absolu de Dieu, non seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant que roi particulier des Juifs, en vertu d'un pacte, et elle peut donc éclairer ceux à qui le pouvoir souverain a été conféré par le consentement des hommes, pour qu'ils voient quelle doctrine ils doivent enseigner à leur sujet. Donc ce passage est magnifique, parce que bon, c'est essentiel en fait. Pour Hobbes, on se rend compte que le souvenir des raisons qui ont présidé au contrat social sont absolument essentielles et qu'il demande un cérémoniel, qu'il demande un rituel du souvenir. Et que ce rituel du souvenir, on le trouve dans le calendrier juif. Et donc c'est un paradigme en fait pour Hobbes. C'est très intéressant parce que c'est quasiment même pré-politique en fait. C'est même pas un fondement politique du souvenir, c'est quelque chose de pré-politique. C'est-à-dire qu'avant même que la loi soit donnée aux Juifs, il leur est demandé de faire une cérémonie qui leur permettra de se souvenir de ce moment-là, de ce moment de l'Alliance. Avant que les commandements, quand j'ai relu le texte, c'est ça, ce qui est très intéressant, avant que les commandements soient donnés, il leur est demandé de se souvenir de ce moment. Donc c'est ce moment-là qui légitime et qui pérennise en même temps la communauté qui devient un corps politique. Et c'est intéressant aussi parce que ça s'oppose à une idée de Spinoza qui dit que les lois de l'État ne valent ne valent que pendant que l'État est institué, que quand l'État disparaît, les lois ne sont plus valables. Spinoza a donc dit ça, je crois, dans le chapitre 5 du traité théologico-politique. Mais en réalité, là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas le fondement de l'État que visent ces lois, c'est le fondement d'un peuple. Donc ce fondement pré-politique du souvenir, c'est le souvenir d'être un peuple. C'est le souvenir d'avoir été fondé en tant que peuple, avant même de recevoir la loi. Et c'est de ça dont il faut se souvenir. Et donc, évidemment, dans Exode, bon, vous devez connaître très bien ce texte, mais voilà, je cite, parce que c'est important de s'appuyer dessus. Et Moïse dit au peuple qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, alors que par la puissance de son bras l'Éternel vous a fait sortir d'ici, et que l'on ne mange pas du pain levé, etc. Donc, voilà, c'est pas le souvenir exactement de la loi, mais c'est le souvenir de pourquoi est-ce qu'il y a la loi. Ça, c'est encore plus intéressant. Donc, je relève pas tous les endroits où il est demandé de se souvenir, parce que ça, je pense que vous les connaissez. Moi, ce qui m'a intéressé, mais peut-être que vous le savez très très bien aussi, et que c'est des choses qui sont interprétées très régulièrement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Dieu se souvient aussi, et qu'il est dit très régulièrement que Dieu lui-même se souviendra de l'Alliance. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de développer, mais dans un pacte social, il y a une réciprocité entre les contractants. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que je me disais que dans l'Alliance, où est la réciprocité? Il y a une réciprocité du souvenir. Dieu dit systématiquement qu'il se souviendra de l'Alliance et de ses promesses. Par exemple, dès la Genèse, à Noah, il dit « À l'avenir, alors lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc disparaîtra, je me souviendrai de mon alliance avec vous et de tous les êtres animés. » Dans le Lévitique, il dit « Je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob, Isaac, Abraham, je m'en souviendrai et la terre aussi, je m'en souviendrai. » Il dit ensuite plus loin « Et je me rappellerai en leur faveur le pacte de mes aïeux, etc. etc. » Donc Dieu se souvient. Alors, maintenant on peut décrire la qualité du souvenir et l'injonction au souvenir pour le peuple. Je n'ai pas du tout le temps de travailler sur ce que signifiait ce souvenir de, en Dieu, qu'un Dieu qui se souvienne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais voilà pourquoi est-ce que il me semble que le souvenir est un fondement même, disons, pas politique, mais pré-politique. Ça veut dire qu'il y a eu un corps politique avant les lois, un corps politique qui n'est pas lié par les lois, qui continuera à être lié par les lois, mais qui n'y est pas d'abord lié par les lois, mais par le souvenir d'une épreuve qui a été traversée ensemble et qui a constitué une espèce de solidarité première et organique du peuple. Et là, j'aurais pu développer avec des sociologues et Durkheim, avec l'idée de solidarité organique qui est pré-politique aussi, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà pour le développement d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup.